Stéphanie Dupeyy, bonsoir, merci infiniment d'être parmi nous.
Bonsoir.
Alors, je vais commencer par vous citer. La fiction qui m'intéresse est celle qui pense les questions contemporaines, sociales ou autres, qui leur donne une forme, une esthétique. Votre activité s'organise autour de deux pôles, deux passions, les politiques sociales et la littérature. Vous êtes autrice, vous êtes aussi journaliste littéraire pour le journal Le Monde. Alors, pour rappel, votre premier roman, Brillante, a été édité au Mercure de France en 2016. C'était un roman qui c'était une manière de mettre en récit les mutations contemporaines du monde du travail. Le deuxième, comme elle l'imagine, également au Mercure de France, il traite des façons dont les réseaux sociaux bouleversent les relations humaines. Alors, parfois, ces deux passions dont on parlait se rejoignent, et je trouve qu'elles se rejoignent fortement dans votre troisième roman, Un puma dans le cœur, qui vient d'être édité, le récit d'un bouleversant secret de famille, une enquête romancée.
Alors, Un puma dans le cœur, donc, à la fois récit et enquête romancée, où s'y mêlent fiction et réalité, prose et poésie, le tout dans une langue belle, simple, limpide et maîtrisée. Les chapitres sont introduits par des titres magnifiques qui racontent l'histoire de votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-mère Anne Desch, née Décimus en 1875, et qui, contrairement à la légende familiale qui la disait morte de chagrin, le cœur brisé, elle est en réalité décédée 40 ans plus tard, oubliée de tous, en hôpital psychiatrique. Vous allez, Stéphanie Dupeyy, à travers votre livre, explorer les rares documents retrouvés à propos de l'asile où Anne a été internée. Vous allez chercher des témoins, tenter de percer ce secret de famille. Comment Anne a-t-elle vécu plus de 40 années sans que sa famille se préoccupe d'elle? Comment occupait-elle ses journées? De quoi est-elle morte? Où est-elle inhumée? Quand sa mère lui assène, et je vous cite, « Il n'y a rien à raconter » ou « Nos vies ne sont pas des romans », vous y voyez un encouragement, justement, à lui prouver le contraire et à poursuivre une enquête qui va, justement, donner naissance à ce magnifique roman. Alors, dès la première page, le ton est donné. C'est une famille où l'on parle très peu. Les avanies portant atteinte à la récolte des tomates préoccupent davantage votre famille que la vie tragique de votre arrière-grand-mère. On ne pose pas de questions pour éviter le bénéfice du doute. Il y a un secret familial qui plane et vous, c'est dans les livres que vous avez cherché à combler ce manque, ce déficit du langage. Se faire la complice de l'oubli, comme vous le dites, est tout simplement impossible pour vous.
Alors, ma première question, vous avez choisi d'écrire votre roman à la première personne. Le je est très présent. Alors, ça confère à l'histoire une dimension personnelle très, très, très touchante. Il y a une phrase très brutale pour moi, très belle aussi, qui dit « Moi, je veux documenter ma perte ». J'ai l'impression que tout est dit là-dedans. C'est particulièrement évocateur. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer qu'est-ce que cette histoire, ce livre, représente finalement pour vous à titre personnel ?
Alors, ce livre, c'est la réponse à un mutisme déjà et un choc. Un choc qui a suivi la découverte de ce secret de famille. à savoir que cette arrière-grand-mère dont on m'avait dit pendant toute mon enfance qu'elle était morte de chagrin, le cœur brisé à la mort de son mari, eh bien, cette arrière-grand-mère n'était pas du tout morte à ce moment-là, mais avait survécu plus de 40 ans. Et cette découverte, il y a quelques années, a provoqué un choc que j'ai eu du mal à comprendre sur le moment. Parce que finalement, d'accord, c'était quelque chose de terrible, mais c'est quelqu'un que je n'avais pas connu. Et pourtant, cette découverte m'a bouleversée. Et je crois que ce livre-là, il vient de ce bouleversement. Et c'est aussi une tentative de compréhension de ce choc. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi cette ancêtre si lointaine m'avait à ce point touchée et pourquoi, justement, j'ai ressenti une perte. C'est quand même étrange. D'habitude, on ressent une perte ou un deuil pour quelqu'un qu'on a connu. Et ça, c'est une femme que j'avais pas connue, que ma mère non plus n'avait pas connue, et que ma grand-mère avait connue jusqu'à l'âge de 6-7 ans, jusqu'à ce qu'elle soit envoyée à l'orphelinat. Et étonnamment, la découverte de la vie tragique, comme je vais pas tarder à m'en rendre compte, de cette femme, m'a complètement bouleversée. Au début, m'a laissée sans voix pendant plusieurs années. J'aurais été incapable d'écrire ce texte juste après avoir fait cette découverte. Mais cette femme, le fantôme de cette femme, n'arrêtait pas d'insister. Et je crois qu'on écrit beaucoup avec ce qui insiste et aussi avec ce qui résiste. C'est souvent là qu'il y a des choses importantes, hein, dans ce qu'on n'arrive pas à appréhender, ce qu'on n'arrive pas à nommer dès le départ. Et ce livre-là, ça a été un moyen de documenter ma perte, c'est-à-dire de comprendre ce qui, en moi, était bouleversé par cette histoire. Et c'était aussi un moyen de mettre sur le papier et d'établir un tant soit peu une vérité avec des faits, avec des documents sur cette femme dont la vie avait été complètement niée, dont la vie avait été passée sous silence. Donc dans ce mot documenter, il y a aussi l'idée de substituer une certaine vérité historique à la fiction, au mensonge, on peut même dire au mensonge dont cette femme a été recouverte, puisque les bonnes sœurs de l'orphelinat où ma grand-mère est allée quand elle avait l'âge de 6 ou 7 ans lui ont dit « ta mère est morte, elle est morte de chagrin, elle n'a pas survécu à la mort de ton père ». Donc moi, face à ce terrible mensonge, annoncer à un enfant la mort de sa mère alors qu'elle était à une vingtaine de kilomètres de là, c'est absolument terrible. Et face à ça, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé et j'ai voulu écrire la véritable histoire d'Anne Décimus. Donc il y a eu, parce que finalement, c'est aussi, un secret de famille, c'est une fiction. Et c'est aussi pour ça que dans ce roman-là, contrairement à mes précédents romans, il y a le jeu. C'est-à-dire que je ne vais plus me planquer, je ne vais plus me cacher. Me semblait qu'il y avait déjà beaucoup de fiction, de mensonges, de légendes, de mythologies dans cette histoire et dans cette famille, mais comme dans toutes les familles, que rajouter la distance du roman, qui était celle de mes deux premiers textes, ce n'était pas possible. Là, il fallait que j'y aille à visage découvert, il fallait que je dise « je ».
Alors, moi, je vais vous poser une autre question. Vous soulignez que l'oubli ne résulte pas seulement de l'érosion du temps, mais aussi d'un certain renoncement à combler les lacunes de la mémoire causées par une autre époque qui encourageait justement à l'indifférence. Selon vous, est-ce la mission de l'écriture que de sauver et de révéler la vérité enfouie sous les décombres de l'histoire ?
Alors oui, je pense que c'est une des missions de l'écriture. C'est essayer de retrouver les traces et de s'opposer au silence et à la disparition la plus brutale. C'est vrai que c'est quand même un scandale absolu, cette perte et cette disparition à tout jamais. Et ce livre est finalement aussi un tombeau qui va permettre de restaurer cette femme et de restaurer sa vie. Il y a un lecteur qui m'a écrit que ce qui était paradoxal, c'est qu'à partir de matériaux administratifs, de documents, d'archives, j'arrivais à la rendre vivante. Et ben, ça c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, c'est-à-dire restaurer la vie de cette femme et m'opposer un petit peu à l'oubli.
Oui, la rendre vivante, comme vous le dites. Oui, c'est sûr.
Et vous nous plongez en même temps. Enfin, il y a de l'intime et il y a du collectif. Donc parce que vous nous plongez dans l'univers méconnu. J'ai pas envie de spoiler, mais on rentre quand même dans l'univers méconnu des patients. De qu'est-ce que c'est un patient psychiatrique? Vous nous invitez à comprendre cette douleur-là. Et comment est-ce que vous abordez cette thématique si délicate? Et voilà, comment est-ce qu'on passe de l'intime à la psychiatrie? Je sais que la question est peut-être compliquée, mais j'ai une phrase pour l'illustrer, une phrase que je trouve très forte, qui parle peut-être de l'auteur aussi. Chacun s'arrange comme il peut avec la souffrance.
Je pense que ce livre-là, c'est un peu ce que j'ai trouvé pour réussir à m'arranger avec ma souffrance. Puisque donc, la découverte de la vie de cet ancêtre m'avait vraiment bouleversée. Alors, je pense pour moi, mais aussi finalement par contamination pour ma grand-mère. Parce que j'ai été élevée par ma grand-mère, qui a été aussi victime de cette histoire et de ce mensonge initial. Et je crois que ce livre a été un moyen de réparer tout ça, en expliquant ce qui avait été fait à cette femme et aussi, par conséquent, à ma grand-mère.
Famille, oui.
Et donc, dans ce livre, il y a quelque chose de très intime, puisque je parle vraiment de mon histoire familiale. Mmh. Les noms sont les bons, les dates aussi. Moi, ce que j'aime, c'est les livres qui ouvrent sur quelque chose de plus grand que soi. Et ce que je voulais aussi raconter à travers l'histoire d'Anne Décimus, mon arrière-grand-mère, c'est l'histoire de tous les malades qui ont été oubliés dans les hôpitaux au XXe siècle. Parce que le cas d'Anne Décimus n'est pas unique. Quand j'ai consulté les documents que j'ai retrouvés à l'hôpital, il y avait des tas de cas de patientes qui restaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans les hôpitaux. Le week-end dernier, j'ai encore reçu un courrier d'une psychiatre qui me racontait qu'il y a quelques années, tout l'hôpital a pleuré la mort d'une patiente qui était restée 51 ans. Donc c'est ce type d'histoire tragique dont la société finalement n'a pas tellement envie de parler que j'avais envie de raconter. Parce que c'était une vraie interrogation pour moi. Qu'est-ce qu'on fait pendant 40 ans dans un hôpital psychiatrique? À quoi s'occupaient les patients? Est-ce qu'on arrivait à apaiser leurs souffrances? Et aussi, qu'est-ce que c'est que délirer? Alors, je suis quelqu'un d'à peu près rationnel, enfin, moyennant quelques psychopathologies quotidiennes, comme tout le monde. Et pour moi, délirer, c'était une altérité absolue. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et faire cette enquête, ça a aussi été un moyen de me rapprocher de cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'un psychotique qui délire? Qu'est-ce que c'est que croire qu'on a le corps envahi par des bestioles, par l'électricité, par des araignées, par je ne sais trop quoi? Qu'est-ce que c'est que croire qu'on est espionné en permanence par le trou de la serrure, par la cheminée? Donc j'ai essayé de comprendre vraiment ce que c'est que vivre dans la tête de quelqu'un qui délire. Donc d'où cette enquête, à la fois sur ce que ressent un psychotique, mais aussi sur la prise en charge à l'hôpital, parce que je pense que c'est l'arrière petite fille qui parle, mais c'est aussi la fonctionnaire du ministère de la Santé qui parle. Je me suis demandé comment on prenait en charge ces patients. À une époque où on n'avait pas les psychotropes et on n'avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui, où toutes ces maladies psychiques étaient encore plus mystérieuses qu'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on faisait pour soigner ces patients avec les moyens du bord? Et dans ce livre, il y a notamment un mystère au sein du mystère, qui est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Anne Décimus, mon arrière-grand-mère, a survécu à la Deuxième Guerre mondiale dans un asile, à une époque où 40 000 malades sont morts de faim. Donc ça aussi, c'était une énigme, parce qu'elle avait toutes les caractéristiques pour faire partie de ses victimes. Elle était âgée, elle n'avait pas de famille qui pouvait lui envoyer des colis pour se ravitailler. Elle était donc très malade et on sait que l'espérance de vie des malades psychiques est inférieure au bien portant. Donc évidemment, là aussi, il y avait un mystère et j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que là, dans les documents que j'ai trouvés, j'ai réussi à mettre au jour la volonté des soignants et de la direction de cet hôpital qui est l'actuel hôpital Charles Perrin à Bordeaux et qui, à l'époque, s'appelait Château Picon. J'ai retrouvé des lettres de la direction de l'hôpital qui écrivait sans cesse au préfet, au ministre, pour essayer de conserver le produit des récoltes de l'hôpital, puisque l'hôpital avait des potagers, des poulaillers. Enfin, l'hôpital, l'asile au XXe siècle était une sorte de ville dans la ville. C'était une communauté, hein, finalement. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver des éléments d'explication sur cette survie. Et que j'ai aussi trouvé des réponses à mes questionnements. Mais qu'est-ce que c'est que qu'être enfermé pendant 40 ans ?
Bien sûr. Alors, finalement, toute cette histoire est basée sur un mensonge. Est-ce que finalement, le mensonge, dans votre histoire familiale, n'est-il pas justement un moyen de préserver ou de sauver ce lien familial ?
Je pense que oui. Certainement que les bonnes sœurs qui ont accueilli ma grand-mère à l'orphelinat donc de Soulac, donc ça se passe aussi en Gironde, quand elles ont dit à cette petite fille que sa mère était morte, c'était certainement pour la préserver.
Je parle même pour les générations suivantes, de continuer à perpétuer ce mensonge, c'est pas une façon finalement de sauver toute cette famille.
Je suis pas totalement sûre et c'est pas très clair. Aujourd'hui, c'est encore pas clair et ma grand-mère est morte en 2015, donc je le saurai jamais. Mais je suis pas tout à fait sûre que à un moment dans sa vie, elle était au courant de cette histoire-là. Mon hypothèse est plutôt oui. Vous verrez comment dans le livre, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, elle est restée accrochée à l'histoire qu'on lui avait racontée depuis qu'elle était toute petite. Parce que c'était peut-être moins douloureux de savoir sa mère morte jeune, ce qui avait quelque chose d'assez romanesque, finalement, une héroïne tragique, Juliette, qui suit Roméo dans la mort. Donc c'était peut-être... la folie était tabou à l'époque, comme elle l'est encore aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu moins. Ce secret avait certainement une fonction de protection. Mais un secret laisse des traces. J'ai lu beaucoup de travaux pour essayer de comprendre cette transmission entre les générations et pourquoi je m'étais sentie aussi concernée et je m'étais sentie comme missionnée pour établir la vérité de cette femme. Et je suis tombée sur une notion qui m'a énormément parlé et que je sentais intuitivement. C'est cette notion de crypte intérieure des psychiatres Abraham et Torok. Alors, cette crypte intérieure, c'est une sorte de chambre à l'intérieur de soi où ma grand-mère a enfermé le fantôme de sa mère. Et ce que disent les travaux de ces médecins, c'est que quand un fantôme est enfermé dans une crypte intérieure, parce que c'est trop douloureux et parce que c'est trop compliqué pour la personne, ce fantôme va ressurgir dans les générations suivantes. Et c'est peut-être comme ça que je me suis sentie cette mission investie de cette mission de réveiller ce fantôme. Et d'où le livre, parce que vous voyez, un fantôme, c'est quelque chose de flou, de transparent, qu'on n'arrive pas bien à saisir. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette histoire. Il y avait quelque chose que j'arrivais pas à saisir, que j'arrivais pas à en mettre en mots. Et le fait de l'avoir mis sous forme de phrase et d'en avoir fait un livre, c'est-à-dire une histoire avec un début, une fin et une certaine logique, une certaine continuité, ça m'a permis de donner une forme. Oui. Alors que le fantôme, c'est l'informe.
C'est d'en faire quelque chose de concret.
Oui, d'en faire quelque chose de concret et d'opposer le récit, une histoire, au chaos. Et d'en faire aussi un objet extérieur et matériel. Donc, ce n'est plus un truc qui tourne dans ma tête. Maintenant, c'est un livre qu'on peut partager et autour duquel on peut discuter.
Tout à fait.
C'est déjà la dernière question, malheureusement. Dans votre démarche d'écriture, après, pour vous et pour les autres, ça je ne sais pas, est-ce qu'il est plus question de trahison ou de rédemption? Ou peut-être l'un n'empêche pas l'autre, j'en sais rien. Parce que en brisant cette chaîne du silence transgénérationnel, voilà, est-ce que vous faites un acte de trahison ou de rédemption ou les deux? Enfin, je ne sais pas.
Alors ça a été un immense questionnement pour moi pendant l'écriture de ce livre. Et je pense que c'est aussi ce qui explique que l'écriture de ce livre a été abominablement compliquée, au sens où j'étais pas bien pendant l'écriture de ce livre. Psychologiquement et physiquement, j'étais tout le temps malade.
Parce que ça met à
je pense
à
qu'il y avait,
choses,
ouais, il y avait, il y avait effectivement, oui, quelque chose qui avait trait aux profondeurs, à des sentiments, à des émotions profondes. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la transgression. Mm-hmm. Et de la trahison. Alors, c'est la première fois que j'écrivais un texte personnel où apparaissaient des membres de ma famille. Donc ça, c'était quelque chose de très compliqué pour moi.
Ouais. Bien sûr.
Donc même si je ne raconte pas des choses abominables sur ma famille, simplement les exposer dans un livre... Ça a été très compliqué.
C'est sûr.
Et puis c'est vrai qu'il y a eu un passage extrêmement compliqué à écrire pour moi. C'est tout le chapitre sur ma grand-mère. Est-ce qu'il fallait casser ses illusions? C'est-à-dire que comment dire, comment essayer de savoir et de faire advenir la vérité, mais sans blesser. Est-ce qu'en voulant à tout prix la vérité, finalement, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Et tout ce questionnement se lit, hein, je pense, en creux dans le livre. Je voulais essayer de savoir ce qui s'était passé, rendre justice à Anne Décimus, donc mon arrière-grand-mère, et aussi à ma grand-mère qu'on a privée de sa mère, en essayant de faire le moins de mal possible et de ne pas trop faire voler les choses en éclats. Donc oui, cette question de la trahison, de la transgression, je crois, m'a énormément perturbée pendant l'écriture du livre, jusqu'au moment où j'ai terminé mon manuscrit où je l'ai fait lire à ma mère.
En tous les cas, on vous remercie pour votre livre qui est bouleversant, courageux. Cette émission sera rediffusée le dimanche à 20h sur Radio Judaïka. Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre roman. Merci Anne Décimus, merci David et à bientôt.
Merci.